joue de la musique sur des calebasses. Ses traditions se mêlent de sonorités plus modernes, pop et afrobeat dans l'air du temps.
J'ai choisi de chanter comme les anciens. Mais lors de la création des beats, moi je préfère faire des beats qui obéiront à certaines normes en fait. Parce que c'est ça qui me permettra d'être écouté par le Gambien, écouté par l'Australien par exemple.
Et pour atteindre ce public multiculturel, Amadeus prévoit une tournée internationale en 2025 avec des dates en Italie, au Canada et en France. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
RFI, 4h42 à Dakar. Dans les 15 prochaines minutes sur notre antenne, reportage à Lubumbashi en RDC où les chorales des différentes églises se préparent aux célébrations de Noël. La situation humanitaire toujours critique dans l'est du pays. On en parle ce matin avec le directeur de MSF en RDC, invité de RFI. Et puis dans le dossier Afrique économie du jour, direction l'île Maurice où l'ancienne administration et de la banque centrale est soupçonnée d'avoir favorisé des industriels proches de l'ancien pouvoir politique via une de ses filiales. C'est donc notre dossier du jour. Mais d'abord, place au sport. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Alors avant de parler des éliminatoires du CHAN de football, on file en Angleterre où Liverpool continue de s'affirmer comme la meilleure équipe d'Europe cette saison.
Les Reds pourront passer les fêtes au chaud, ils reprennent le large en tête de la Premier League après une victoire impressionnante hier à Tottenham, 6-3 avec encore une fois un immense Mohamed Salah, 2 buts et 2 passes décisives à lui tout seul. L'Égyptien est tout simplement en état de grâce, à la fois meilleur buteur et passeur du championnat. Il totalise déjà 15 réalisations et 11 passes. Son entraîneur Arne Slot n'est pas surpris par les performances de l'ailier des Pharaons qui sont le fruit d'un grand professionnalisme.
Mo a juste montré ce qu'il montre depuis tant d'années à Liverpool, que l'équipe n'a qu'à le servir dans cette zone où il peut toujours marquer ou faire une passe décisive. Et au-delà du super joueur qu'il est, c'est une personne avec qui il est agréable de travailler. Il est toujours là pour aider ses coéquipiers. Et c'est quelqu'un de très terre à terre. Je suis sûr qu'il est déjà en train de travailler pour bien récupérer. Il sait très bien ce que ça demande d'être à un tel niveau tous les 3 jours.
Au classement, Liverpool creuse le trou. Les Reds ont désormais 4 points d'avance sur Chelsea. Fin d'une série de 5 victoires de rang, les Blues ont été stoppés sur la pelouse d'Everton 0-0. Et puis du côté d'Old Trafford, le cauchemar de Manchester United, Charlotte, déroute des Red Devils face à Bournemouth 3-0.
Venons-en à présent à la route vers le prochain championnat d'Afrique des Nations de football. Il ne reste plus qu'un match à disputer pour les sélections de joueurs locaux.
Oui, hier c'était la fin des matchs allés de la double confrontation qui clôture ces qualifications. Et le Cameroun a pris une petite option face à la Centrafrique. Succès précieux, 1-0. Le défenseur Aloïs Fouda a inscrit en seconde période le seul but de la rencontre. Une rencontre délocalisée à Abidjan, stade des Bimpé, que les Camerounais ont pris par le bon bout, selon leur sélectionneur Simplice Sow.
On vient entamer le match avec beaucoup de grosses occasions ratées. Vers la fin de la première mi-temps, les Centrafricains commençaient à prendre confiance. À la deuxième mi-temps, nous sommes entrés, nous les avons mis à leur place très rapidement. Après, il fallait contrôler le match. Il y a eu des moments d'errement, mais on est resté solide jusqu'à la fin. C'est vrai, au niveau du jeu, ce n'est pas ce que nous attendions, parce que dans la préparation, on était beaucoup mieux que ça. Dans la prestation, on peut faire mieux. Nous avons pris une avance à l'aller. Au retour, on va se préparer pour fêter avec notre public une qualification qui se dessine déjà.
Propos recueillis par Molamine Sissavané, qualification qu'il faudra quand même valider samedi prochain pour le Cameroun, seconde manche à la maison contre la Centrafrique.
Oui, Victor, on fait le point sur les autres résultats de ce dimanche. La Côte d'Ivoire est aussi bien partie.
Sa sélection a prime à remporter le derby face au Burkina Faso 2-0, un doublé d'Oumar Konaté, l'attaquant du FC Sol d'Abobo. Petit avantage pour la Mauritanie contre le Mali 1-0, match nul 1 partout entre le Togo et le Niger, même score entre le Libéria et le Sénégal. Et puis tout reste à faire entre le Ghana et le Nigeria 0-0. Enfin, courte défaite du Rwanda face au Soudan du Sud, 3-2.
Merci Victor, c'était le journal des sports de Victor Missistrano.
Charlotte de Rouen.
Dans l'actualité de ce lundi 23 décembre, une journée de deuil national aujourd'hui en France, plus d'une semaine après le passage du cyclone Chido à Mayotte. Les populations sont invitées à marquer une minute de silence à 10h en temps universel. Les drapeaux sont en berne dans le pays. Le bilan humain reste toujours inconnu. 35 morts ont pour l'instant été officiellement recensés. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, sera tout à l'heure l'invitée de RFI Entretien. À 6h20, temps universel, la France, qui par ailleurs est toujours sans gouvernement. L'entourage du Premier ministre fait savoir que les derniers réglages sont en cours. François Bayrou avait promis la nomination de son équipe avant Noël. Le nouveau dirigeant syrien promet que toutes les armes du pays passeraient bientôt sous le contrôle de l'État et que toutes les factions armées seraient progressivement dissoutes. Ahmad al-Shaari poursuit par ailleurs ses prises de contact diplomatiques. Après une délégation libanaise, il recevait hier le ministre turc des Affaires étrangères qui exhorte la communauté internationale à lever au plus vite les sanctions qui pèsent contre Damas.
RFI à Lubumbashi, 98 FM.
Dans le monde entier, des milliers de chrétiens vont se rassembler pour la messe de minuit demain soir. Dans l'est de la RDC, à Lubumbashi, la messe sera célébrée un peu plus tôt, entre 18 et 20 heures, à cause de la situation sécuritaire sur place. Mais dans les églises, les chorales s'y préparent déjà depuis une dizaine de jours. Reportage de Denise Mayo.
Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Laurent de l'église catholique à Lubumbashi, une trentaine de chanteurs de la chorale Mwanga sont en pleine répétition. Cette chorale, qui existe depuis 32 ans, va animer la messe de Noël mardi soir. Hortense Kiboué, la présidente.
Nous chantons les 24 à 19h, juste.
Alors, le répertoire que vous avez préparé, c'est des nouvelles chansons, c'est des anciennes chansons?
Bon, il y a des nouvelles et des anciennes. Normalement, nous mélangeons pour ne pas perturber aussi les chrétiens, vu que nous chantons le 24, c'est une fois par an.
La tenue des membres de la chorale Mwanga fait également partie de la célébration de la fête de la Nativité de Jésus, explique encore Hortense Kiboué.
Il y a toujours eu des tenues particulières, comme là, nous allons mettre des toges de la couleur blanche et verte.
Plus loin, la chorale de l'église pentecôtiste Portée des Cieux s'apprête surtout à mettre de l'ambiance au cours du culte de la nativité. Et c'est depuis 15 jours qu'on s'y prépare. Julie Mangaza, jeune d'une vingtaine d'années, est très motivée.
Il y aura vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de temps de louange et d'adoration. Nous chantons par exemple « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. »
En l'église méthodiste unie, une des plus grandes églises de la ville, là aussi, toutes les chorales sont en effervescence. Une dizaine de jeunes de la paroisse Jérusalem apprennent un nouveau morceau. Sa guitare à la main, le maître des chants s'assure que tout le monde maîtrise non seulement la mélodie, mais aussi les paroles. Et Stéphane, secrétaire du groupe, pense surtout à la qualité du son.
Nous avons demandé qu'on revoie la sonorisation, puisqu'on sent que maintenant il y a trop d'écho, et c'est ce qu'on veut éliminer. Que le jour de Noël, vraiment, nous puissions très bien passer cette journée sans qu'il y ait des difficultés.
Pour la plupart des choristes, chanter à la fête de la nativité est un événement à ne pas rater. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
La RDC, où près de 7 millions de personnes sont toujours déplacées internes à cause des différents conflits qui ravagent le pays. Dans l'Est, la situation est particulièrement critique, notamment dans le Nord Kivu, une zone où sévit depuis plus de 2 ans maintenant les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans les camps, les conditions de vie sont inhumaine. Emmanuel Lampert est le directeur de Médecins Sans Frontières dans le pays. Il revient tout juste d'une mission dans l'Est. On l'écoute.
J'étais à l'Est jusqu'à la semaine passée, notamment dans le territoire de Calais et ensuite à Goma, dans les camps. La situation perdure, s'enlise. Ce que j'ai pu voir dans les camps autour de l'hôpital de Minova, avec une distribution alimentaire en cours, les gens se piétinent, se poussent. Ça montre qu'ils sont vraiment dans la souffrance, qu'ils ont besoin de cette aide essentielle. Et il y a eu même des morts. Dans l'hôpital, j'ai vu le service de chirurgie débordé. Pas des traumas, des accidentés, de la voie publique. On parle là des gens qui reviennent du front. On est maintenant 2 voire 3 ans dans les conséquences de cet enlisement, de ce conflit. Et ça, c'est un constat qui fait mal.
Quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents, sachant que la réponse humanitaire a été un peu plus financée cette année que les années précédentes, donc l'argent est là, et pourtant les conditions restent dramatiques dans les camps de déplacés.
Certes, on a tous pu le lire. Jamais auparavant, le plan de réponse humanitaire a reçu autant d'argent. 3/4 vient d'un donateur spécifique. Pas mal se fait par des transferts de cash. Les besoins prioritaires sont toujours là, c'est-à-dire l'essentiel en termes de eau et assainissement n'est pas assuré. Et puis, on doit toujours marteler la prise en charge de qualité, avec confidentialité, des violences sexuelles.
Une interview à retrouver en longueur dans 1 heure sur notre antenne.
RFI à Port-Louis, 93.2 FM.
Le dossier Afrique Économie du jour nous emmène à l'île Maurice. Après les irrégularités commises par l'ancienne administration de la Banque de Maurice, le nouveau gouverneur entend restaurer l'intégrité de l'institution. Rama Sitenen a été nommé après les élections législatives de novembre et il examine de près les comptes de la Mauritius Invest Corporation, une filiale privée créée par la Banque centrale en juin 2020 pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la pandémie de Covid-19. Mais certains en auraient profité pour se remplir les poches ou favoriser des industriels proches de l'ancien pouvoir politique. À Port-Louis, la correspondance d'Abdullah Erali.
Cette filiale privée disposait d'un fonds de 2 milliards de dollars dont l'origine cependant était floue. Le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice a apporté des clarifications à ce sujet. Rama Sitenen.
Un très bon économiste.
De très bons économistes affirment encore que la Banque de Maurice a converti 2 milliards de dollars pour obtenir 80 milliards de roupies. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'une simple création monétaire. Je peux vous assurer que la Banque centrale n'a procédé à aucune conversion de devises. L'argent a été créé électroniquement par une simple frappe sur un clavier.
La création monétaire a provoqué l'inflation et déprécié la roupie. Sur le principe, les économistes mauriciens considèrent cette mesure comme étant une solution de dernier recours, un remède de cheval pour sauver les industries durant la pandémie. Cependant, les modalités du fonds de 2 milliards de dollars interrogent. Est-ce vraiment le rôle d'une banque centrale de créer une entité privée comme la Mauritius Investment Corporation? Devait-elle réaliser des opérations privées telles qu'investir dans l'immobilier, acheter des actions et émettre des obligations? La réponse du nouveau gouverneur de la banque centrale, Rama Sitenen.
Il existait un contexte particulier qui justifiait une intervention de la Banque centrale. Cependant, je ne suis pas convaincu qu'investir dans l'immobilier ou les actions fasse partie de ses missions principales. C'est diluer le rôle de la Banque de Maurice. Or, sa principale mission est d'assurer la stabilité des prix, la santé financière du pays, la valeur de la roupie et un développement économique équilibré.
En mai dernier, le FMI a recommandé à la Banque centrale de Maurice de se désengager de la controversée Mauritius Investment Corporation. Pour leur part, les nouveaux dirigeants politiques de Maurice sont discrets au sujet des méthodes peu orthodoxes de l'ancienne administration de Bank of Mauritius, invoquant le secret bancaire et la préservation de l'image de Maurice. Cependant, pour l'économiste Kichong Lee Kwang Win, le diagnostic est clair.
Ce qui a mal tourné, c'est que la Banque de Maurice, qui devrait faire l'expansion monétaire, a utilisé des moyens peu orthodoxes, pas transparents du tout, pour imprimer de l'argent et utiliser cet argent pour favoriser les petits copains et les industries peu viables.
Résultat, les comptes de la Banque de Maurice se sont dégradés et nécessitent, selon les experts, une recapitalisation. Parallèlement, la banque a saisi les autorités compétentes afin d'enquêter sur de potentielles malversations financières commises par l'ancienne administration. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Un dossier que vous pouvez retrouver sur RFI.fr. Et c'est l'heure de vous retrouver, Maman. Cette année 2024 qui se termine n'aura pas été rose pour la démocratie.
Oui, rien que le nom de notre beau pays, la très très démocratique République, ce nom donne une bonne indication de ce qui en fait l'essence, ce qui en fait l'ADN, c'est-à-dire la démocratie. Bah oui, par exemple, quand on dit pétromonarchie, pas besoin de dessin, on devine tout de suite que le pétrole coule à flot dans les comptes de la famille royale. Et donc, quand on dit République très très démocratique, pas besoin d'avoir fait Sciences Po, on imagine tout de suite que dans les veines de tous les Gondouanais coule un seul sang bleu, la démocratie. En cette année 2024, comme chaque année au Gondwana, ben la démocratie a tellement fait feu de tout bois qu'elle s'est brûlée les doigts, les cheveux, les vêtements. Pour dire la vérité, on a plutôt ouvert le feu sur la démocratie. Eh oui, elle a le dos criblé d'impacts de balles, la démocratie. Partout où tu regardes un très très démocratique république, pour tous les dégâts, il n'y a qu'une seule responsable, la démocratie. Le sous-développement, ben c'est la faute de la démocratie. Hein. La corruption, pareil, la démocratie. Il n'y a pas de route, pas d'école, pas d'hôpitaux. Toujours la faute de cette satanée démocratie. On n'avait pas de la démocratie, crient les jeunes Gondouanais qui n'ont connu que la démocratie depuis leur naissance. C'est bizarre. Tu n'as connu que le climat gondouanais toute ta vie, soleil, matin, midi et même le soir. Tu ne connais que ça. Et t'en as marre du soleil, de la chaleur, de la poussière, des moustiques toute la journée. Tu es convaincu que tout ce qui t'arrive de mauvais dans ta vie, ben c'est à cause de ce fichu climat. Tu veux du changement, tu veux du froid, tu veux des nuages dans le ciel, tu veux un temps gris, tu veux autre chose que ce temps monotone parce que c'est à cause de lui que rien ne va dans ta vie.
Pourquoi tu ne me demandes pas mon avis, moi? Les jeunes, là, ils connaissent quoi de la vie?
Ah, ok, excuse-moi, cher Gondwané Labda, tu m'as devancé. Oui, j'allais justement me déplacer dans ton coin pour recueillir tes éclaircissements, toi, le connaisseur de la très très démocratique république.
Écoute, ces enfants-là, ils savent pas que quand on a trop chaud, il y a la climatisation, que contre la poussière, il faut de belles routes, etc., etc. Ce n'est pas la faute du climat ou de la démocratie s'il n'y a pas tout ça au Gondwana.
Bon, je ne vois pas très bien où tu veux en venir, mon cher Gondwané Lambda, mais je devine que tu veux expliquer à tes jeunes frères que s'ils n'aiment pas le climat gondwanais, mais qu'ils sachent que par d'autres latitudes, l'hiver est très très rude, il y a la neige, il y a le vent, il y a le gel, et que s'il faut la clim ici au Gondwana, eh bien là-bas, il faudra du chauffage, des habits chauds, même s'il y a des routes, des écoles et des hôpitaux. Et donc, ce n'est pas de la faute du soleil ou de la démocratie s'il n'y en a pas au Gondwana. C'est la faute des gens qui profitent de la démocratie ici. C'est pas la même chose. À demain.
Merci Maman et à demain. Prochain rendez-vous avec l'actualité africaine. Ce sera dans une heure avec Simon Bourtembourg. D'ici là, restez avec nous sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
le recours à l'intelligence artificielle ne cesse de s'accélérer. Nouveaux métiers, formations aux outils, quels défis attendent les travailleurs?
Demain,
Harlem à New York ne sera bientôt plus un quartier noir. Comment le phénomène de gentrification s'est-il déployé?
8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.